Agent.com. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Dans une minute, il sera 7h15, c'est l'heure des voix de l'économie. Le chef économiste de la société de gestion Carmignac est votre invité, François, ce matin.
Bonjour Raphaël Gaillardeau.
Bonjour François.
Bienvenue sur Radio Classique. Alors ce verdict dont on parlait à l'instant avec François Vidal, tant redouté, est tombé hier soir. Bon, finalement, pas de mal. Hein. Moody's qui nous a fait la leçon, mais nous maintient sa note AA2, c'est-à-dire 18 sur 20, si on met sur une échelle, il y a 20 notes. Est-ce que ça vous a surpris? Nous, on l'a été. Hein. On avait dit, Moody's va nous dégrader.
Alors, les marchés étaient très relax par rapport à ça. Et comme ça a été dit dans l'édito précédent, c'est plutôt S&P qui fait peur parce qu'eux, ils sont sous perspective négative. Fitch nous avait dégradé il y a un an. Ils n'avaient pas annoncé. C'est-à-dire que les agences de rating, on les oblige à ne pas tirer sur l'ambulance.
C'est-à-dire, annoncer la couleur.
Voilà, annoncer la couleur. Il y a des plages définies auxquelles ils peuvent changer les ratings. Donc les signaux envoyés n'étaient pas vraiment inquiétants.
Mais même là, la perspective de la note française par Moody's reste sur stable.
Absolument, ouais. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent un peu, effectivement, cet étonnement. Le premier, c'est qu'effectivement, quand on arrive à des niveaux de dette aussi élevés, un jugement sur la solvabilité d'un emprunteur, c'est ce qu'on appelle un équilibre multiple. Hein. C'est-à-dire, ça peut être une prophétie réalisatrice. Si vous avez une agence qui nous dégrade du jour au lendemain, ça peut être autoréalisateur. Mmh. Donc, c'est pour ça que le politique met son nez dedans et on sait qu'en Europe, les agences, elles ont été dans le radar de la Commission, du Parlement, suite à la crise souveraine. Donc, je pense que déjà, elles marchent sur des œufs. Deuxièmement, je pense que les agences, sans le dire, accepte que les ratings ne sont pas un jugement absolu de la solvabilité d'un emprunteur, mais sont un jugement relatif. Et comme grosso modo, depuis Covid et Ukraine en Europe, tout le monde s'est dégradé, et que finalement, il n'y a pas tellement de dettes notées AAA ou AA, mais finalement, la dette de la France, elle a quand même une taille qui lui assure une liquidité. Donc on se dit, quelque part, il faudra bien que quelqu'un place en titre peu risqué, et donc la France, ça reste un bon candidat. Et troisièmement,
c'est presque du too big to fail.
Exactement. Exactement. Et la troisième chose, c'est que les agences comme les marchés acceptent que petit à petit, ces dettes sont insoutenables. Quand c'est des gens qui ne sont pas dans ces champs de conflit d'intérêts, ils vous disent clairement, même le rapport de l'agence bipartisane du Congrès américain dit elle-même, la dette américaine n'est pas soutenable. Mais tout le monde accepte que petit à petit, le risque de défaut sur une dette est en train de se transmuer en un risque sur l'inflation. Parce que l'inflation, c'est la même chose qu'un défaut, mais au ralenti. Donc finalement, le risque de défaut que notent les agences, finalement, ils se disent, on a déjà fait de l'inflation les deux dernières années, c'était déjà un défaut déguisé, ça a permis de gommer un peu les dettes, et ça continuera comme ça.
Mais quand j'entends ce que vous dites, et quand on sait aussi que les agences de notation ont été beaucoup critiquées pour avoir raté, il y a plus de 15 ans maintenant, la crise des subprimes, ou même il y a un an à peine, la faillite de plusieurs banques régionales américaines, est-ce que leurs notations en général sont vraiment encore importantes?
Leurs notations sont importantes, elles sont vitales pour le marché obligataire. C'est-à-dire, l'idée qu'un marché obligataire, ça peut être plus efficace qu'un système bancaire, c'est que les risques sont disséminés dans tous les portefeuilles de millions d'emprunteurs. Mais ce n'est pas à chaque emprunteur de faire le travail d'une banque, d'analyser la solvabilité de tous les emprunteurs. Donc il faut qu'il y ait des référentiels externes.
Oui, mais si tout à chaque fois est relatif et que le politique fait une part, l'aspect politique prend une partie du pas sur l'aspect purement, on a des notes, on prend les chiffres, on met des coefficients, etc. Bon.
ça reste fondamentalement l'idée que les agences de notation sont obligées de prendre le système financier tel qu'il est. On est dans un système surendetté, avec en plus un risque souverain tellement élevé et, comme l'a rappelé le président Macron, des défis stratégiques qui vont obliger à dépenser plus, qui en plus rendent l'épargne mondiale moins abondante, donc moins disponible pour financer notre dette. Je pense que les agences de notation, elles vont pas se prendre pour Don Quichotte face au moulin à vent. Vont dire, nous, on prend le système tel qu'il est, on va pas essayer d'être plus smart que le système lui-même et dire, finalement, oui, vous êtes tous en faillite, etc.
Vous le disiez, on va surveiller ce qui va se passer du côté de Standard & Poor's, donc c'est le 31 mai, c'est dans à peine un mois, c'est la plus grosse des agences de notation. Aujourd'hui, on est double A, perspective négative. Est-ce que perdre le double A serait là un vrai choc?
Oui, pour moi, par le double A, c'est un peu le saut quantique. Mais on n'en est pas encore là. Hein. Il faudrait d'abord qu'il nous dégrade de double A à double A.
Il y a plusieurs critères dans le double A.
Voilà. Mais si on passe à simple A, je pense qu'il y aura une grosse différence sur la capacité de beaucoup d'institutionnels étrangers pour porter la dette française. Dette française, c'est une des plus internationalisées. Et beaucoup de fonds de pension, de fonds souverains étrangers ont des contraintes de régulation dans leur portefeuille étranger. Ils n'ont pas le droit d'acheter quelque chose qui est en dessous de double A. Donc ça peut faire beaucoup plus mal. Mais on n'en est pas encore là.
Ce qui fait que la dette française est ou non soutenable, c'est aussi très grandement le rôle de la BCE qui est crucial. C'est elle qui nous sauve face au marché si les taux auxquels emprunte la France commencent à grimper trop. Est-ce qu'elle peut nous contraindre par une politique, tout d'un coup, que les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne décideraient?
Oui, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. La France est too big to fail. On sait très bien que, en théorie, les pays de la zone euro s'endettent dans une monnaie étrangère. C'est-à-dire que les États-Unis, eux, ils s'endettent dans leur propre monnaie. Et ils peuvent, si Donald Trump, comme il le dit, veut prendre le contrôle de la Réserve fédérale, il peut le faire, s'il a l'accord du Congrès. En Europe, techniquement, c'est pas possible. Donc, techniquement, la France s'endette dans une devise étrangère. Maintenant, la France étant un des pays cœur de la zone euro, on se dit bien que si la France a un risque souverain qui est mis en cause par les marchés, bien voilà, la tentation de monétiser cette dette, elle sera là. Je pense qu'on a changé de monde avec Draghi sous la Banque Centrale Européenne. Je pense que les premières années de la Banque Centrale, sous Duesenberg et Trichet, la Banque Centrale était là un peu pour servir d'aiguillon au gouvernement, de dire il faut faire des réformes, il faut faire de l'ajustement, et si vous ne les faites pas, on va monter les taux d'intérêt, ça vous fera mal et ça vous obligera à les faire. Draghi, par contre, au tout début de son mandat, dans un discours devant le Parlement européen, il a dit que la Banque Centrale Européenne n'a pas été créée pour exercer un chantage sur les gouvernements. Et donc finalement, ce qu'il a fait, quand on est arrivé au bout de la crise souveraine et que les gouvernements ne pouvaient plus rien faire ou ne voulaient plus rien faire, quand Merkel et Sarkozy avaient dit « nous, ça suffit », Draghi a dit « on fera whatever it takes ».
Quoi qu'il en coûte,
voilà, on le fera. Voilà. Et c'est ce qui a permis de sauver l'Irlande, l'Espagne et l'Italie. Les marchés subodorent qu'on fera encore... La raison de le faire pour la France est encore plus importante. Ouais. Parce que de toute façon, comment interpréter le mandat de la BCE ? Le mandat de la BCE, c'est la stabilité à l'intérieur de la zone euro. Draghi, ce qu'il nous a dit, de toute façon, mon mandat, c'est la stabilité des prix. Si l'euro n'existe plus, c'est quoi mon job ? Donc, est-ce que je mets la survie de l'euro avant la stabilité des prix ? Évidemment que oui. Et donc, je pense que sous Christine Lagarde, ce sera la même voie qui sera empruntée.
D'un mot, Raphaël Gallardo, malgré les fortes tensions proches et au Moyen-Orient, Gaza, Israël, l'Iran, l'impact semble quasiment invisible, notamment sur le pétrole et sur tout un tas de marchés qui semblent insensibles à la géopolitique. Comment est-ce que vous observez ça ?
Alors, premièrement, je pense que le marché a fait la bonne analyse, qui est de dire, voilà, on a eu une très forte montée des tensions, mais ce qui est très clair dans les échanges de missiles qu'il y a eu récemment, c'est qu'Israël et l'Iran ne veulent pas une guerre ouverte. Donc ça devrait rester un conflit localisé entre des pays qui ne sont pas vraiment producteurs de pétrole, un petit peu de gaz en Israël. Deuxièmement, on sait que les problèmes avec l'Iran, face à elle, il y a l'Arabie Saoudite. Et donc la capacité excédentaire de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, assure une marge de manœuvre. Donc si demain, on sanctionnait à 100% l'Iran, on supprimait du marché 1,5 million de barils le jour, l'Arabie Saoudite et les Émirats sont capables d'apporter un complément sur le marché. Et donc je pense que les tensions, elles sont plus sur les produits raffinés, notamment parce que sur les produits raffinés,
donc
on n'a pas...
carburants.
Ouais, voilà, exactement. Et puis, on rajoute à ça dans l'équation le fait que les Ukrainiens, maintenant, ils canardent les raffineries en Russie.
Effectivement, ça va dans les deux sens. Il y a aussi des bombardements russes sur les centrales électriques. Merci beaucoup, Raphaël Gallardo. On va suivre ça. On va suivre ce que va faire la BCE début juin et puis la Fed la semaine suivante avec cette question. Est-ce que l'inflation va repartir ou pas? Merci beaucoup, Raphaël Gallardo, chef économiste de Carmignac.
François, à demain, dès 6h, pour le tour complet de l'actualité économique. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Le Rassemblement national poursuit ses recrutements dans la haute fonction publique pour construire sa respectabilité et l'efficacité de sa liste aux élections européennes. PN Radio Classique.